Voilà, je vous propose que nous nous confions une nouvelle fois à la Sainte Vierge, afin qu'elle nous guide dans notre réflexion et notre méditation sur les mystères de ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, nous poursuivons notre marche, d'une certaine manière, avec Jésus. Vous savez que pendant tout le carême, une petite antienne liturgique que nous chantons, en tout cas ceux qui récitent l'office des Laudes, chante tous les matins, cette petite antienne, c'est « Les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu ». Voilà, c'est une très belle antienne, « Les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu ». Et c'est véritablement ce que nous faisons dans ce Triduum Pascal. Nous regardons le Christ et nous regardons Jésus lui-même. Nous le suivons et nous entrons dans son combat. Voilà, c'est toute la thématique de Gethsémani dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une thématique du combat. Nous entrons véritablement dans le combat de Dieu. Alors c'est le combat de Dieu avant d'être le nôtre. C'est ça qu'il faut comprendre. Toujours le combat de Dieu avant d'être le nôtre. Nous avons à combattre, il est clair. Ça, il suffit de lire, de regarder notre vie chrétienne quotidienne. Être chrétien n'est pas facile. C'est quelque chose qui demande véritablement de combattre, un esprit combatif. Mais dans ce combat, le Seigneur nous a déjà précédés. Et l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'était celui de Gethsémani. Grâce à la puissance de l'Esprit, Jésus, qui a vécu cette heure, l'a vécu aussi pour nous. Et à chaque fois que nous combattons nous-mêmes contre ces tendances différentes et variées que nous pouvons trouver dans notre cœur, en fait, Jésus a déjà combattu avec nous et pour nous. Ce combat se continue. Après Gethsémani, Jésus est arrêté, conduit dans différents interrogatoires. Nous allons revoir toute cette partie-là maintenant. Et puis, conduit sur son chemin de croix et jusqu'au Golgotha, où il va mourir. Et c'est la méditation que je vous propose que nous parcourions maintenant. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Elle est fondée sur le grand évangile de la Passion, de l'évangile de Jean, les chapitres 18 à 19. Et je voudrais pointer du doigt avec vous un certain nombre d'éléments. On ne peut pas parcourir l'ensemble de ces deux chapitres, parce qu'il y aurait véritablement beaucoup trop de choses à dire et à penser. Mais je voudrais attirer votre attention sur plusieurs éléments, plusieurs thèmes. Voilà. Et le premier de ces thèmes-là, qui fait écho à ce que nous avons pu entendre hier, et ce que j'ai pu encore dire ce matin, le premier de ces thèmes, c'est la liberté de Jésus. Vous savez, c'est quand même propre, et c'est tout à fait étonnant de voir comment est-ce que les évangiles, et en particulier l'évangile de Jean, a vraiment repéré au-delà des événements, parce que quand on regarde les événements, on n'a pas l'impression, mais au-delà des événements, a pu repérer que Jésus était parfaitement libre. Jésus était parfaitement libre. « Ma vie, nul ne la prend, dit Jésus, chapitre 10 de l'évangile de Jean. Ma vie, nul ne la prend, et vous connaissez la suite, c'est moi qui la donne. » Et cela veut dire dans l'évangile qu'il la donne librement. Parce que s'il ne la donnait pas librement, c'est que on le lui aurait prise. D'accord ? C'est la liberté du Christ. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Oui, Jésus continue d'être libre et de donner librement sa vie, alors même qu'on va mettre la main dessus, qu'on va le ligoter, qu'on va le flageller, qu'on va le condamner, et qu'on va l'amener sur le chemin, la Via Dolorosa, jusqu'à la croix, c'est-à-dire à l'heure même où Jésus va rentrer dans une procédure judiciaire, où tout semble décidé pour lui, il demeure parfaitement libre. Et ça va être le premier thème, hein, le premier point que je voudrais voir avec vous. Je suis dans l'évangile de Jean, chapitre 18 et 19. Chapitre 18 de l'évangile de Jean. Vous connaissez cette histoire. Jésus est à Gethsémani, il a prié, et puis voilà qu'une troupe de gens arrive avec des torches et des bâtons. D'accord ? Ils viennent pour arrêter Jésus. Et l'évangile de Jean dit encore ceci. Il dit, que je retrouve, voilà. Il dit de nouveau, voilà, verset 4. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avance et pose la question à ces gens qui sont venus l'arrêter : qui cherchez-vous ? Là encore, voyez, Saint Jean, qui a vraiment des yeux perçants, hein, il a bien compris quel est le mystère du Christ, Saint Jean insiste sur la science de Jésus. Jésus, sachant tout ce qu'il allait lui arriver. Première réflexion à propos de ce sachant. Si Jésus sait tout ce qui va lui arriver, il lui était facile de fuir. D'accord ? Il sait parfaitement ce qui va lui arriver. Il aurait très bien pu prendre un chemin de traverse et partir. Donc, s'il reste, et non seulement s'il reste, mais s'il s'avance vers ces gens pour leur poser la question « Qui cherchez-vous ?», c'est qu'il le fait librement. Voilà une première attestation de la liberté de Jésus. Parce que Jésus a la science, il est libre. Et vous savez qu'une des conditions précisément de l'exercice de notre liberté humaine, eh bien, c'est la connaissance. Ça, c'est quelque chose dont on fait facilement l'expérience. D'accord ? On est plus libre quand on sait ce qui va nous arriver que quand on ne sait pas. Parce qu'on peut décider à l'avance des options que l'on prendra. Jésus est donc libre. Il s'avance librement vers ces gens, il leur pose la question « Qui cherchez-vous ? » Quelle est la réponse ? Jésus, le Nazaréen. Que répond Jésus ? C'est moi. En grec, alors là, il faut faire un peu de grec, mais le grec dit pas « c'est moi ». Le grec dit « ego eimi ». Vous savez ce que ça veut dire en grec « ego eimi » ? En deux mots, « ego eimi », ça veut dire « je suis ». Je suis. Qui cherchez-vous ? Jésus le Nazaréen. Jésus répond, je suis. C'est quoi ce je suis ? C'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le nom que Dieu avait révélé à Moïse dans le buisson ardent. Chapitre 3 du livre de l'Exode, verset 14. Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent et Dieu dit à Moïse... Vous connaissez cette phrase ? Je suis celui qui est. En grec, ego eimi, o on. Ego eimi, c'est le même nom. C'est les deux mêmes premiers mots que Jésus prononce quand on vient lui dire qu'on cherche Jésus le Nazaréen. Il répond, je suis. Voilà, je suis. Et qu'est-ce qui se passe juste après ? Les gens entendent, je suis. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils tombent par terre. Alors on peut faire des expériences hein, avec moi. Si je vous dis « je suis », alors vous êtes assis, mais si vous vous mettez debout et que je dis « je suis », vous n'allez pas tomber par terre. Bah, c'est clair, d'accord ? Moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Voilà, vous pouvez essayer entre vous, ça ne marchera pas non plus. Et quand Jésus dit « je suis », lui ça marche. Pourquoi ça marche ? Et parce qu'il est Dieu. Parce qu'il dit son nom. D'accord ? Et quand il dit son nom, on ne peut pas mettre la main dessus. On ne peut pas l'arrêter. Jésus est le seul homme au monde que l'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas mettre la main dessus. Vous savez, le premier péché de la Genèse, en Genèse 3, c'est d'avoir mis la main sur le don de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était quelque chose que vraisemblablement Dieu avait prévu de donner à l'homme. Mais l'homme n'a pas attendu que Dieu le lui donne. Il l'a pris de sa propre initiative. C'est un vol, si vous voulez. Voilà. Eh bien, Dieu, on ne peut pas mettre la main dessus, à la différence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne peut pas mettre la main dessus. Et l'évangile tout entier nous rappelle cette vérité qu'on ne peut pas mettre la main dessus. Je vous l'ai rappelé hier, l'évangile de Jésus à Nazareth, hein, quand il dit dans la synagogue de Nazareth des mots qui visiblement ne plaisent pas à ses concitoyens, on veut le précipiter en haut d'un rocher et lui, pssst, il arrive à passer son chemin au milieu de cette foule parce qu'il est Dieu et qu'on ne peut pas mettre la main dessus. Cet homme est trop puissant pour cela. Vous voyez, il est en plénitude, il est encore une fois en possession de la plénitude de la puissance divine. Hier, je vous le disais, hein, qu'on a entendu dans l'évangile, Jésus sait que le Père lui a tout remis entre ses mains. Il a créé les mondes. Il vous a créé comme il m'a créé. Et on ne peut pas mettre la main sur lui. Cet homme est trop puissant. Donc, quand on vient l'arrêter, « Qui cherchez-vous, Jésus de Nazareth ?»« Je suis !» Poum, tout le monde tombe par terre. Voilà. Saint Paul a été lui aussi encore bouleversé par ce mystère. Hein, et il dit, alors que vous savez, vous entendez cette phrase hein, que j'ai rappelée d'ailleurs hier, hein, Philippiens 2, versets 6 et 7, hein, « Il s'est abaissé, prenant la forme de l'obéissance et de l'obéissance jusqu'à la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, afin que tout genou fléchisse et que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. » Même saint Paul dit « Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame que le Christ est Seigneur. » C'est exactement ce qui se passe dans le jardin à Gethsémani, alors qu'on vient arrêter Jésus. Il dit « Je suis », il a le nom qui est au-dessus de tout nom, et parce que c'est son vrai nom, eh bien ses ennemis fléchissent et ils tombent. Vous voyez, Jésus est complètement libre. Alors si Jésus accepte d'être ligoté, c'est qu'il le veut et qu'il le fait librement. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et que l'heure de Jésus n'est plus au renoncement, elle n'est pas au renoncement, mais elle est don total de sa vie jusqu'au bout. Voilà, confère ce que j'ai dit hier encore hein, à propos de Jean 13. Vous voyez, Saint-Pierre qui voit la scène et qui voit que finalement on arrive à mettre la main sur son maître, Saint-Pierre n'est pas content. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dégaine son épée. Voilà, dégaine son épée, il commence même à se battre et il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre dont on connaît le nom d'ailleurs, ce serviteur qui s'appelle Malchus. Malchus, hein, c'est un détail rapporté par l'évangile de Jean. Si Jean rapporte ce détail, c'est pour attester qu'il était vraiment présent et qu'il a vu la scène. Hein. Voilà. Eh bien, cette petite histoire est encore importante parce que cela montre que si Jésus avait voulu, il aurait pu faire appel à un certain nombre de ses partisans qui avaient le sang chaud et qui étaient prêts à se battre pour lui. Voilà. Jésus aurait pu prendre la voie de la révolte, et puis il aurait pu encore une fois s'enfuir. Est-ce que c'est cela qu'il a fait ? Non. Il n'a pas fait cela. Dans l'évangile de Matthieu, il va même plus loin, Jésus. Il dit à Pierre, alors que Pierre sort l'épée et coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre, il lui dit « Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne crois-tu pas que si j'avais fait appel à mon père, il m'aurait donné plus de 12 légions d'anges ?» Une légion, c'est 6000 hommes, sans compter les mercenaires et la logistique qui va avec. 12 fois 6000, c'est quand même pas mal. 72 000 anges. Vous voyez ? Si Jésus avait fait appel à son père, il aurait pu avoir 72 000 anges pour le tirer de ce mauvais pas. Il aurait pu faire ça. Le fait-il ? Non. Pourquoi ne le fait-il pas ? Parce que ce qu'il fait, il veut le faire. Il est libre et c'est librement qu'il accepte de donner sa vie. Continuons toujours sur le thème de la liberté. Je vous dis cela parce que finalement, quand on regarde l'évangile de Jean, Jésus aurait pu s'en sortir, mais de tas de manières différentes. Il est amené Après cela, il est amené chez Anne, le grand prêtre. Anne avec un H. Hanna, le grand prêtre. Anne, le grand prêtre, n'était pas grand prêtre. Nous connaissons Anne par la figure des, par les historiens. La figure de Anne est connue. Anne était grand prêtre il y a quelques années avant l'arrestation de Jésus, mais c'est un homme qui avait du mal à lâcher son pouvoir. D'accord ? Donc, s'était débrouillé pour mettre ses gendres à la place. Et comme c'est un homme qui avait de nombreux désirs, il avait réussi à trouver 8 gendres qui se succédaient au trône du grand prêtre. Nous connaissons le dernier d'entre eux, Caïphe. Voilà. Mais avant Caïphe, il y en a 7 autres. Vous voyez ? Et Anne fait ça, visiblement, parce que c'est un homme qui devait avoir pas mal de ressources, un type assez rusé, fin politicien, et que par la figure de ses gendres, il permettait de garder encore un petit peu de son pouvoir et de manigancer dans l'ombre un certain nombre de choses. Bref, c'était un homme, c'était vraiment un homme de pouvoir. Mais la loi du Sanhédrin, donc le conseil suprême des chefs, des prêtres, la loi du Sanhédrin ne lui reconnaissait aucun pouvoir particulier dans l'instruction dans l'instruction judiciaire, voilà. Donc, hein, dans les procès, voilà, exactement. Ne lui reconnaissait aucun pouvoir dans les procès. Or, c'est précisément lui qui va interroger Jésus. Deuxième détail important, il interroge Jésus pendant la nuit. Donc ça, on est pendant la nuit. Ça se passe pendant la nuit, après Gethsémani, ça se passe pendant la nuit. Or, le droit juif interdit au Sanhédrin de se réunir pendant la nuit. Et le Sanhédrin est le seul organe judiciaire qui permet en toute légitimité de pouvoir instruire des procès. Donc, l'entretien que Anne fait passer à Jésus est un entretien qui n'a aucune valeur juridique. Parce que Anne n'a pas l'autorité juridique et parce que le Sanhédrin n'est pas réuni, ne peut pas être réuni pendant la nuit. Vous voyez ? Jésus aurait très bien pu dire à Anne, « Dis donc, Anne, quelle est ta légitimité pour m'interroger ?» Il aurait très bien pu lui dire, « Il y a vice de procédure. » Et ce vice de procédure fonctionne. Vous savez que les Juifs sont des pros en droit. Donc il y a tout un appareil juridique et les choses sont très contrôlées. Il aurait très bien pu renvoyer Anne face au côté illégitime et tordu de l'interrogatoire qu'on lui fait subir. Et faisant cela, il aurait très bien pu être relâché. Est-ce que c'est ce qu'il choisit de faire ? Non. Il décide de rester. Pourquoi ? Toujours pour la même chose. Parce que ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Suivons Jésus et allons jusqu'au palais de Pilate. Pilate, lui, il a le pouvoir de faire crucifier Jésus. D'ailleurs, Pilate le lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner comme de te relâcher, de te crucifier ou bien de te laisser partir. D'accord ? Pilate a le pouvoir, il le sait. Et Pilate, nous le connaissons aussi par l'histoire. Nous savons que c'est un procurateur, la Judée, donc le territoire autour de Jérusalem, est une province romaine, c'est-à-dire qu'elle est soumise au droit romain. Le droit romain s'occupe des affaires civiles, et le droit juif s'occupait des affaires religieuses. Donc la province de Judée, Jérusalem, est soumise au droit romain, et Jésus est manifestement présenté à Pilate pour être jugé comme un criminel de droit commun. Voilà. Et nous connaissons Pilate par les historiens, nous savons que c'est un homme qui a une certaine poigne, certains diront qu'il est cruel, en tout cas je pense que simplement Pilate ne savait pas très bien comment gouverner ce pays qui était un peu explosif, et donc n'hésitez pas à appliquer la loi de manière assez ferme, voyez, quitte à être injuste. Et nous avons plusieurs témoignages historiques de l'injustice de Pilate, et notamment un certain nombre de crucifixions, autres que celles de Jésus. Et c'est à cet homme que Jésus est amené pour être jugé. Pilate repère que Jésus est innocent. Et ça, on le voit dans l'évangile. Les 4 évangiles sont tout à fait d'accord pour dire cela. Vous connaissez cette phrase de Pilate. Je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. Et dans un évangile, il se lave même les mains, en signe de protestation et d'innocence. Et on sait que Pilate a le pouvoir et qu'il a utilisé ce pouvoir plusieurs fois de manière parfois très ferme. Pilate a donc découvert l'innocence de Jésus. Pourtant, il va faire condamner Jésus. Et il va même le faire condamner deux fois puisqu'il lui fait subir le supplice de la flagellation et ensuite de ça de la crucifixion. Or, normalement, ceux qui étaient flagellés n'étaient pas crucifiés. Donc c'était soit l'un, soit l'autre. Alors déjà, quand vous aviez la flagellation, vous étiez déjà aux portes de la mort. C'était un supplice qui était extrêmement difficile. Vous connaissez, vous savez peut-être que c'est avec on est fouetté avec un fouet, avec plusieurs lanières et des osselets en métal qui déchirent la peau. Et la souffrance était telle que dans bien des cas, la personne succombait de ses blessures peu de temps après. Et donc, à cause de ça, ceux qui étaient flagellés n'étaient pas crucifiés parce qu'ils avaient déjà suffisamment souffert comme ça. Voilà. Jésus, lui, subit les deux supplices. Donc il est condamné non injustement, mais il est doublement condamné injustement. Or, Pilate a découvert l'innocence de Jésus. Et Pilate a le pouvoir. Jésus aurait très bien pu dire à Pilate, « Dis donc, Pilate, c'est ça le droit romain ? Tu vas condamner un innocent ? C'est ça le droit romain ?» Il aurait très bien pu rappeler Pilate à l'exigence du droit romain qui veut que les coupables soient condamnés et que les innocents soient relâchés. On ne sait pas ce que Pilate aurait fait dans ces conditions. Peut-être qu'il aurait utilisé, vous voyez, la raison d'État. Peut-être. Mais n'empêche que Jésus aurait pu protester contre cela. Est-ce qu'il a protesté ? Il n'a pas protesté. Il a simplement répondu, alors que Pilate lui posait la question « Es-tu le roi des Juifs ?» Il a simplement répondu une phrase ambiguë. « Tu l'as dit, c'est toi qui le dis. » C'est comme ça qu'il répond. On ne sait pas très bien comment se comporter avec cette phrase. Mais si Jésus avait vraiment voulu échapper à son sort, il aurait protesté de manière plus claire et plus tranchante. Vous voyez ? Pourquoi Jésus ne le fait pas ? Toujours pour la même chose. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et le moment est venu pour Jésus de la donner véritablement. Je vais revenir là-dessus. Pourquoi la donne-t-il de cette manière-là ? Mais n'empêche qu'il la donne. Et si vous regardez au début de l'évangile de Jean, au début du chapitre 19 de l'évangile de Jean, après que Jésus est crucifié, on a encore une petite attestation de cette liberté de Jésus. Parce que Jean écrit de manière assez curieuse, « Portant lui-même sa croix, Jésus sortit, et tous les gens derrière. » On a l'impression que c'est Jésus lui-même qui guide les opérations. Il est devant, et les autres sont derrière. C'est ça l'impression que ça donne. Vous voyez, Jésus porte lui-même sa croix, et de lui-même il y va. Pourquoi ? Toujours pour la même raison. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et il a décidé de la donner librement et il va la donner jusqu'au bout. Vous voyez, l'évangile de Jean, on aurait pu prendre d'autres indications encore, mais l'évangile de Jean nous montre de manière manifeste que Jésus avait des tas de possibilités de s'en sortir. Il avait la puissance divine. Il avait la possibilité du secours divin. Ces fameuses 12 légions d'anges. Il avait la possibilité de rameuter autour de lui un certain nombre de partisans qui avaient le sang chaud. À l'époque de Jésus, on appelle ça des Galiléens, parce que ces Galiléens, il y avait toute une bande de fomenteurs de troubles qu'on appelait les Galiléens, et qui avaient le sang chaud, des émeutiers. Voilà. Et Pierre, vous savez, il y a même parmi les deux, il y en a un qui s'appelle Simon le Zélote. Vous connaissez ? Voilà, Simon le Zélote. Le Zélote parce qu'il était zélé. Zélé parce que, à la limite, de temps à autre, ces gens-là, qu'on appelle les zélotes, pouvaient très bien ne pas hésiter à recourir à la force physique pour affirmer leur propre vérité et leur propre foi. Il y en avait parmi les disciples de Jésus. Il n'y a pas que Pierre. Il y avait aussi ce Simon-là et peut-être d'autres encore. Jésus ne fait pas appel à ce type de subterfuge pour échapper à son heure. Vous voyez ? Et puis enfin, dans les procédures judiciaires, il aurait très bien pu dire « il y a un problème, tu n'es pas légitime, ou alors tu as reconnu que j'étais innocent, applique donc le droit et laisse-moi partir. Eh bien non, Jésus refuse tous ces moyens, encore une fois, parce que sa vie, nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne, et il le fait de manière libre. Le fait qu'il le fasse, hein, alors qu'il avait les moyens de faire autrement, nous prouve à l'évidence que Jésus est libre. Voilà. Cette liberté de Jésus, nous la rappelons à chaque fois que nous célébrons la messe. Au moment d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit du pain, il rompit, etc., etc. Vous voyez, l'Église a été bouleversée par le mystère de cette liberté du Christ. Voilà, Jésus est libre. Voilà. C'est un point qui, à mon avis, est vraiment important. Pourquoi ? Parce que sans liberté, il n'y a pas d'amour, comme je vous l'ai dit hier. Jésus est libre et le fait qu'il soit libre lui donne de pouvoir précisément livrer sa vie par amour pour nous. Jésus est parfaitement libre. Jésus est parfaitement libre. Jésus est libre pour se donner et il se donne. C'est ça l'évangile de la Passion. Il se donne et il se donne complètement. Simplement, il se donne aux mains des pécheurs. Alors maintenant, c'est un deuxième thème que j'aborde avec vous. Il se donne aux mains des pécheurs. Après la liberté, Jésus est parfaitement libre, il se donne. Il se donne librement aux mains des pécheurs. Lui, le Fils de Dieu, il est livré, comme il le dit plusieurs fois dans les annonces de la Passion, il est livré aux mains des hommes. Il se donne aux hommes, mais les hommes sont pécheurs. Que vont faire les pécheurs de ce don ? Ils vont le défigurer. Recevoir le don de Dieu n'était pas possible en l'état pour les pécheurs que nous sommes, et les hommes ont défiguré le don de Dieu. Et c'est ça le point qui est important à bien considérer. Il y a un passage où on le voit de manière assez claire, c'est quand Jésus sort, vous savez, Pilate fait sortir Jésus après son procès, il le fait sortir sur une estrade, sur une esplanade qu'on appelle Gabbata. D'accord ? C'était un endroit, en fait, dans le palais de Pilate, il le fait sortir dans le lieu dit Gabbata. À ce moment-là, il est à peu près 9h, 9h et quelques du matin. Dans ce genre de pays, le soleil est déjà très haut, et donc la lumière du jour est éblouissante. Jésus arrive plein jour sur cette estrade, visible à tout le monde, et Pilate a un drôle de mot. Il dit « Voici l'homme, ecce homo ». Il l'a sans doute dit en grec, mais il l'a peut-être dit en hébreu. Et en hébreu, « Voici l'homme » se dit « Inné à Adam ».« Inné à Adam ».« Inné, voici, à », c'est le L apostrophe, et l'homme se dit en hébreu « Adam »,« Adam ».« Voici Adam ». Alors ça doit nous faire réfléchir. Pilate n'avait absolument pas conscience de ce qu'il faisait en disant ça. Et il n'avait absolument pas conscience, en disant ces mots et en apportant Jésus à la lumière du jour, il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait. Nous savons par exemple que Caïphe, quelques versets auparavant, au chapitre 12 de l'évangile de Jean, Caïphe a cette phrase assez étonnante alors que les Juifs sont en train de délibérer sur le cas de Jésus. Caïphe dit « Vous ne comprenez donc rien, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple plutôt que la nation entière périsse. » Ça va, vous vous souvenez de cette petite phrase ? Et Jean a une petite notation tout à fait curieuse. Jean, qui écrit l'évangile, dit « Caïphe disait cela non de lui-même, mais parce qu'il était grand prêtre cette année-là et qu'il prophétisait. » Donc vous voyez, Caïphe n'a pas conscience de la portée de ses mots quand il dit cela. Eh bien, il se passe analogiquement la même chose avec Pilate, qui amène Jésus au Gabbata, à la pleine lumière du jour, et en disant ces mots tout à fait étonnants, « Inné à Adam, voici l'homme ». Il aurait dû dire « Voici Jésus de Nazaréen que vous prenez pour le roi des Juifs ». Non, il dit « Voici l'homme inné à Adam ». Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Est-ce que vous savez, alors là il faut faire appel à notre mémoire biblique. Je viens au chapitre 3 du livre de la Genèse, c'est un livre, un chapitre que vous connaissez par cœur, hein, c'est l'épisode du serpent. Vous voyez, le jardin, Adam et Ève, ils sont là, etc., etc. Il y a un serpent qui arrive, hein, qui va persuader Adam et Ève de manger, enfin, d'enfreindre la loi de Dieu, de manger le fruit, hein, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est le premier péché. Quelle est la conséquence du péché? Il y en a deux, en fait, conséquences de ce péché, de manière immédiate. Première conséquence du péché, on dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. D'accord? Ils se font des pagnes, hein, pour cacher leur nudité. C'est une manière de se dire que la relation de l'homme et de la femme n'est plus aussi transparente qu'auparavant. Donc, vous voyez, ils commencent à rentrer dans une stratégie de dissimulation de l'un envers l'autre. Ça, c'est une première chose. Ils se cachent l'un à l'autre. Alors, je reviendrai sur ces versets importants demain dans le mystère du samedi saint, parce que ce chapitre 3 du livre de la Genèse a des conséquences tout à fait importantes pour nous à l'heure actuelle, et ça a quelque chose à voir avec le samedi saint. Voilà. Donc, je reviendrai là-dessus. Ceci pour vous donner l'eau à la bouche. Voilà. Mais pour l'heure, c'est la première conséquence du péché, c'est que l'homme et la femme se cachent l'un de l'autre. D'accord ? La confiance ne règne plus. Et ils sont obligés de se cacher l'un de l'autre. Mais il y a une deuxième conséquence qu'on nous raconte lorsque, de manière un peu rigolote, lorsque Dieu, à la brise du soir, se promène dans son jardin, en sifflotant peut-être, hein, il vient se promener à la brise du soir dans son jardin, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui le frappe. C'est qu'il se promène, il voit toutes les choses, mais il y a quelque chose qui cloche. Vous savez ce qui cloche ? Qu'est-ce qui cloche ? Et ben, il ne voit pas Adam. D'accord ? Il ne voit pas Adam. Alors il l'appelle. Adam, où es-tu ? Rappelez-vous cette question. Adam, où es-tu ? Voici Adam. D'accord ? Donc il y a une espèce de jeu, hein, entre Jean 19 et la parole de Pilate, hein, et puis la question de Dieu. Adam, où es-tu ? Dit Dieu quand il se promène dans le jardin de la Genèse. Et puis finalement, Adam finit par se montrer quand même. Et quelle est la parole d'Adam ? J'ai entendu ta voix qui marchait dans le jardin. J'ai eu peur et je me suis caché. La deuxième conséquence du péché, c'est que l'homme se cache de Dieu. D'accord ? L'homme se cache des hommes et l'homme se cache de Dieu. Et voilà que Pilate amène Adam. Alors le véritable Adam, en l'occurrence le véritable Adam, c'est Jésus. Il amène Adam à la lumière du jour. Vous voyez, donc Adam, imaginez, on peut imaginer ça, hein, par notre imagination. On voit Adam qui rentre dans son fourré pour se cacher. On voit Jésus qui sort du palais de Pilate pour se montrer. D'accord ? Et quand Jésus se montre après le procès de Pilate, eh bien, il est tout défiguré. Il a été blessé. Il a la couronne d'épines, il a été flagellé, il est tout défiguré. Vous voyez, pourquoi Adam s'était caché ? Parce qu'il avait peur de Dieu. Mais le péché avait déjà marqué sur Adam sa propre défiguration. Le péché défigure l'homme. Le péché nous défigure. Le péché nous défigure. Et parce que c'est finalement insupportable que le péché nous défigure, eh bien, nous mettons nous-mêmes dans notre propre conscience des tas de mécanismes qui nous empêchent de reconnaître la gravité du péché. Or, quand Pilate fait sortir Jésus en pleine lumière du jour et lui disant « Voilà Adam », eh bien, il nous montre ce que le péché réalise. Le péché a défiguré le visage de l'homme. Le péché a défiguré le visage de l'homme. Et cela s'est manifeste encore une fois dans l'évangile de Jean. Dès qu'une action dans l'évangile de Jean se réalise envers Jésus, voyez, dès qu'il y a une action qui se réalise envers Jésus, qui est une action pécheresse, eh bien cela défigure et cela blesse Jésus. Je vais vous prendre un exemple pour vous montrer ce que je dis. Je reviens au palais de Anne, où Jésus est interrogé. Donc Jésus est interrogé par Anne, qui l'interroge sur sa doctrine, Et Jésus dit une phrase bizarre, c'est assez curieux d'ailleurs, la façon dont Jésus s'y prend. Il dit à Anne, « Tous les jours j'étais dans le temple avec vous. Ce que j'ai à dire, ce que j'ai dit, demandez-le à ceux qui m'ont entendu. Ils savent bien, eux, ce que j'ai dit. » D'accord ? Ça, vous vous souvenez de cette phrase-là ? Au même moment, parce que là encore, vous savez, Jean est un cinéaste incroyable, hein, donc il jongle entre les plans et entre les scènes pour nous montrer que différentes histoires et différentes scènes fonctionnent ensemble. Au même moment, il y a Pierre qui est en train de se chauffer les mains, hein, dans la cour du grand prêtre. D'accord ? Il se chauffe les mains parce qu'il fait un peu froid. Et puis il y a une servante qui arrive et qui dit à Pierre, « Dis donc, Pierre, t'étais pas avec cela, avec Jésus ?» Voyez ? Et que répond Pierre ? « Je ne vois pas de qui tu parles. Je ne connais pas de qui tu parles. » Voilà. Pierre se défausse. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus avait dit juste avant, « Eh bien, ce que j'ai dit, demandez-le à mes disciples. Ils sauront bien répondre, eux. » Et voilà que le disciple se défausse. Le disciple n'a pas le courage de dire qu'il est vraiment disciple du Christ. Retournons dans le palais de Anne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le garde donne une gifle à Jésus. C'est comme ça que tu parles au grand prêtre ? Vous voyez, les deux scènes fonctionnent ensemble pour nous faire comprendre que lorsque nous nous défaussons, eh bien, en fait, d'une certaine manière, une gifle est donnée au Christ. La lâcheté du disciple a un impact sur le visage du Christ. Et le visage du Seigneur est défiguré. Et les deux scènes fonctionnent exactement ensemble. Jésus se reposait dans l'acte de foi et dans le témoignage du disciple. Le témoignage du disciple faillit. On blesse le Christ. On peut reprendre la même chose avec Pilate. Pilate, je vous l'ai dit tout à l'heure, sait que Jésus est innocent. Oui. Il sait que Jésus... Donc Pilate a découvert la vérité. Va-t-il obéir à la vérité ? Vous connaissez l'histoire. Non, il n'obéit pas à la vérité. Comment s'appelle la désobéissance à la vérité ? Le mensonge. Vous voyez ? Et quelle est la conséquence du mensonge ? La mort du seul homme innocent. Le mensonge défigure le Christ. La conséquence du mensonge, c'est la défiguration du Christ. Et Jésus l'avait dit quelques versets auparavant dans l'évangile de Jean, alors qu'il parlait aux Juifs. Il leur disait ceci, « Le diable est menteur dès l'origine et le mensonge est homicide. » Homicide, ça veut dire qu'il tue l'homme. Eh bien, de fait, c'est ce qui est en train de se passer. Le mensonge de Pilate, la non-obéissance de Pilate à la vérité qu'il a découverte, va conduire à faire condamner Jésus. Le mensonge est directement homicide. Voyez. Et on pourrait reprendre encore d'autres éléments, en fait. Voyez. Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est qu'à chaque fois que les hommes se défaussent, hein, à chaque fois que les hommes n'obéissent pas, eh bien, cela contribue à défigurer le visage du Seigneur. Pourquoi fait-il cela ? Pourquoi fait-il cela ? Eh bien, parce qu'il est temps de montrer quel est l'effet du péché. Et que notre péché, frères et sœurs, possède en lui-même une puissance d'obscurcissement, d'aveuglement, ce qui fait que nous avons du mal à découvrir notre propre péché. Et ça, c'est une expérience que nous faisons tous les jours. Voyez ? Et le Seigneur, dans cette période de la Passion, fait une opération vérité. Il dit « Le péché tue l'homme et offense Dieu. » Il tue l'homme, contribue à défigurer l'homme et il blesse Dieu. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et vous voyez que c'est bien ce qu'il se passe. Et la deuxième raison pour laquelle Jésus fait ça, c'est parce que Jésus s'identifie précisément, il porte sur lui, comme je le disais tout à l'heure, le péché des hommes. Il porte sur lui le péché des hommes, il accepte de porter sur lui la blessure du péché. Et cela, il le fait de manière complète, absolue, totale. Tout à l'heure, je disais, il prend sur lui, hein, la coupe de la colère de Dieu, il paye la facture, et c'est bien ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Il devient l'agneau de Dieu qui porte et qui enlève le péché du monde, à tel point que l'évangile de Marc, alors l'évangile de Marc, on l'a entendu au rameau, l'évangile de Marc met dans la bouche de Jésus une phrase terrible qu'on a du mal à comprendre, chapitre 15, la dernière parole de Jésus, que vous connaissez très bien. C'est quoi cette dernière phrase de Jésus dans l'évangile de Marc ? Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oui. Jésus prend sur lui la totalité du péché. Il prend sur lui la blessure du péché, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il prend sur lui même la fureur de Dieu, la colère de Dieu, jusqu'à en éprouver l'éloignement de Dieu. Alors là, c'est un mystère, hein, parce que Jésus reste, ne cesse d'être uni à son Père, il ne cesse d'être, uni, voilà, en communion avec son Père, et pourtant, il va porter cela jusqu'au bout. Hein, il paye la facture. Opération vérité, hein, il porte le péché du monde, et miséricorde de Dieu, parce qu'il le prend sur lui-même, il va l'enlever. Mais opération vérité, pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que nous restions pécheurs. Si Jésus nous montre son visage ensanglanté, en nous disant, sans jamais nous condamner, « C'est pour toi que j'ai vécu cela. Vois quelles sont les traces que tu as laissées sur mon corps, par tous tes péchés. » S'il fait ça, c'est certainement pas pour nous condamner. Mais il nous montre cela, c'est une opération vérité, pour nous secouer un peu les puces et pour nous dire, mais bats-toi contre le péché. Avance, moi je donnerai la grâce. Je vais te donner la miséricorde. Mais je ne veux pas que tu restes pécheur. Je veux que tu avances et que tu te sortes de ce mauvais pas. Oui. C'est ça que le Seigneur réalise. Voyez, dans la passion, il y a à la fois la manifestation de la miséricorde de Dieu et en même temps la révélation de notre propre misère. Miséricorde, misère, ça fonctionne ensemble. La révélation de la miséricorde de Dieu et la révélation de notre misère. On peut dire que c'est la révélation de la miséricorde de Dieu et en même temps de la justice divine, hein, qui nous montre quelle est l'horreur du péché. Voilà. Alors, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter sur cet autre point, sur un dernier point, c'est que en laissant imprimer sur sa chair et en prenant en lui-même, en buvant cette coupe, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure à Gethsémani, Jésus n'a pas fait l'économie de la souffrance. D'accord ? Nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fait l'économie de la souffrance. Il n'a pas fait l'économie de la souffrance pour nous montrer quelle est la catastrophe du péché ? Quelles sont les conséquences catastrophiques du péché ? Voilà, il a fait ça pour cette fameuse opération vérité. Mais on peut en tirer une conclusion, on peut en tirer une dernière remarque qui me semble importante. Dans cette souffrance vécue par Jésus, Jésus n'a jamais cessé d'aimer. Et cette chose-là est quelque chose de vraiment importante. Hein ? Que Jésus n'ait jamais cessé au cœur de la souffrance. C'est un thème dont Jean-Paul II s'est emparé dans une de ses lettres apostoliques magnifiques, qui s'appelle Salvifici Doloris, le sens chrétien de la souffrance, écrite en 1981, que vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site du Vatican, et qui est magnifique, et qui propose une très belle méditation précisément de la passion du Christ, et du fait que dans cette souffrance qu'il a prise, dit Jean-Paul II, de manière volontaire, il n'a jamais cessé d'aimer son Père et les hommes. Vous savez que la souffrance a tendance à nous refermer sur nous-mêmes. C'est une expérience que l'on fait de manière régulière. Alors moi, je n'ai pas beaucoup souffert dans ma vie, mais certains d'entre vous ont certainement beaucoup plus souffert que moi. Et vous savez que la souffrance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique, hein, a la tendance à refermer, à abaisser l'horizon de notre conscience sur nous-mêmes. Voilà. Le monde de la souffrance, dit Jean-Paul II, est un monde dans lequel on se trouve très seul. Hein, c'est quelque chose où finalement on ne se trouve que soi-même et sa propre souffrance. On a du mal à sortir de sa souffrance pour regarder autrui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une expérience que l'on fait. Il suffit d'avoir souffert, mais ne serait-ce qu'un peu physiquement, pour comprendre cela. Et c'est pour ça que dans la souffrance, l'amour est difficile. Parce que l'amour, c'est l'ouverture à l'altérité. Aimer dans la souffrance supposerait de briser cette clôture de la souffrance pour sortir de cet horizon refermé sur soi et aimer véritablement un autre. Un autre avec un petit A ou un autre avec un grand A. Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il a vécu dans sa souffrance. Il a aimé un autre avec un grand A, à savoir Dieu, son Père, et il a aimé les autres avec des petits A que nous sommes tous, nous tous. Vous voyez ? L'amour de Jésus n'a pas été vaincu par la tentation propre à la souffrance de se replier sur soi. L'amour a été victorieux dans la souffrance. Il a aimé les siens jusqu'au bout. Dans la souffrance, il a continué à faire don de sa vie pour un autre, pour autrui. Il n'a pas regardé à soi-même, dit Paul encore, hein. Il n'a pas regardé à soi-même, mais il a aimé parfaitement dans la souffrance et il a laissé l'espace ouvert à autrui. Ça, frères et sœurs, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà l'annonce de la résurrection du Seigneur. La souffrance n'aura pas le dernier mot de cet amour. Jésus va aimer les siens, il les aimera jusqu'à la perfection. Et cette perfection brise déjà et vainc la tentation, hein, propre à la souffrance du repli sur soi. Voilà, il me semble que c'est quelque chose qui est important, hein, à méditer. Et cette, alors moi ça me touche d'autant plus parce que j'étais en aumônerie d'hôpital quand j'étais séminariste, donc je visitais les malades. Puis un jour je rentre dans une chambre. Je vois une femme qui était là, dans son lit, et puis elle voit ma croix, et puis elle me dit, vous savez, je suis pas chrétienne. Je dis, c'est pas grave, on peut quand même discuter, on peut quand même parler. Donc on commence à parler. Et puis elle me dit, vous savez, dans ma vie, j'ai toujours été égoïste, mais il y a quelque chose que je comprends pas, alors que je souffre le martyr, je sais plus ce qu'elle avait comme truc, hein. Je souffre le martyr, je peux... et qu'il y a plus de joie à offrir cette souffrance pour ma fille. Voilà. Cette femme n'était pas chrétienne. Ah ben moi, je vais vous dire, ça m'a séché. Hein. Voilà. Parce que je me suis dit, voilà, une femme non chrétienne qui se met à ressembler à Jésus. L'amour de cette mère pour sa fille n'était pas tenu en échec par la tentation de la souffrance de se replier sur elle-même. Mais tout ce qu'elle vivait, elle voulait l'offrir pour sa fille. Elle me disait, je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein. Elle me disait, je ne sais pas comment ça marche. Mais je sais que si j'offre ma souffrance pour ma fille, ça portera du fruit. Or moi, je lui ai parlé de Jésus, évidemment. Hein, je lui ai dit, voilà, il y en a un autre qui a fait ça, peut-être que, voilà. Vous voyez, l'heure de Jésus est comme éternisée par la puissance de l'Esprit. Et ce que cette femme vivait, eh bien, elle le vivait d'une certaine manière dans l'heure même de Jésus. Vous voyez, ce que Jésus a vécu, en l'occurrence, sur la croix, il le donne à des tas d'autres personnes de le vivre. Voilà. Son amour n'est pas tenu en échec par la souffrance. Nous de même, frères et sœurs, notre amour peut très bien ne pas être tenu en échec par notre souffrance, et ce faisant, nous devenons déjà des témoins de la résurrection, de l'amour plus fort que la mort. Voilà. Je vous laisse sur ces mots, je vous laisse sur ces quelques paroles. Hein, peut-être que au cours des... Alors vous aurez l'occasion, hein, de vivre un chemin de croix ou de vivre l'office de la Passion ce soir. Hein, souvenez-vous peut-être des trois choses, hein, que je vous ai indiquées. La première, c'est que Jésus est parfaitement libre et qu'il se donne parfaitement, totalement parce qu'il nous aime, qu'il veut donner sa vie. Et que pour lui, le moyen de donner sa vie, c'est de prendre sur lui les conséquences du péché, physique et puis spirituel. Voilà, il paye la facture, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on le voit sous les yeux. Il devient l'agneau de Dieu qui porte et qui enlève le péché du monde. C'est la façon dont il témoigne son amour, sa miséricorde. Et troisième point, hein, le témoignage de Jésus, le témoignage de Jésus sur la croix, c'est que la souffrance et même la mort n'ont pas le dernier mot, mais que l'amour est vainqueur. Que l'amour est vainqueur. Et bien que le Seigneur nous aide à progresser et à avancer dans cet amour, qu'il nous donne la force d'aimer Jésus et d'aimer nos frères comme lui-même les a aimés, qu'il réponde à notre prière et qu'il nous bénisse. Amen. Donc, on peut chanter, je ne sais pas si vous avez une idée de chant. Moi, je me tiendrai de nouveau pour confesser. Voilà.
Love.